si c'est voté à l'Assemblée, si les LR, par exemple, s'associe à Renaissance, eh ben c'est quand même compliqué de continuer à se mobiliser alors que la démocratie, le Parlement a adopté un texte. Wilfried, vous avez l'impression qu'effectivement il y a peut-être un début de fissure là dans la...
Non, moi, je voudrais saluer l'attitude quand même qui est très républicaine de la CFDT, et qui effectivement paraît une attitude très raisonnable, mais qui est moins répandue que ce qu'on pourrait l'espérer. C'est qu'effectivement, à partir du moment déjà où le débat au Parlement commence, on laisse le temps du débat au Parlement, et si effectivement la loi est votée, la loi s'applique. Bon, ce qui est important de voir, c'est dans quelle dynamique on va se situer tout le courant du mois de février. Est-ce qu'on va être dans une dynamique de conflit social de plus en plus fort,
de durcissement,
ou est-ce qu'on va être dans une dynamique telle que celle qu'on a pu connaître dans d'autres projets de loi, où on a quelques mouvements qui apparaissent et qui laissent finalement la place à ce qui est normalement le centre du débat, surtout compte tenu de la configuration actuelle du Parlement, c'est-à-dire le débat au Parlement, au Sénat, pour savoir, et on voit qu'on a encore peut-être des marges de manœuvre pour changer un peu ce projet de loi. La question maintenant, c'est effectivement comment est-ce que on va vivre collectivement à la fois ceux qui sont les acteurs économiques et ceux qui sont les acteurs politiques et syndicaux, comment on va vivre les 3-4 semaines qui sont les semaines cruciales jusqu'au vote, ou en tout cas au premier vote du Parlement.
Emmanuel, il n'y a pas de concession sur l'âge, sur les 64 ans, on est toujours autour pot de terre contre pot de fer. Hein.
Bah, ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir que on s'arc-boute sur finalement ce qui avait déjà fait échouer la réforme précédente, c'est-à-dire que la vraie réforme qui aurait été la réforme par points systémique, etc., elle a pris du plomb dans l'aile le jour où on a réintroduit cet âge pivot de 64 ans.
Ouais.
Et tout ce qu'on trouve à faire avec cette nouvelle réforme, c'est finalement de ne changer qu'une chose, c'est l'âge de départ qu'on repousse de 62 à 64 ans. Donc clairement, le gouvernement a choisi la ligne de pente la plus compliquée, la plus difficile. Moi, je pense qu'il y a quelques... Alors, effectivement, j'entends le discours sur la loi votée au Parlement. Moi, je suis pas du tout sûr, malheureusement, que ce sera... aussi simple que ça, et c'est pas parce que les Républicains avaient dans leur programme la retraite à 65 ans qu'ils vont voter comme un seul homme cette réforme des retraites. N'oubliez pas qu'il y a quand même une caractéristique de ces députés LR, c'est qu'une très grande partie d'entre eux ne viennent pas, comme souvent, de circonscriptions assez aisées et riches. Ils viennent énormément de circonscriptions rurales, pauvres, etc. Et qu'est-ce qu'ils entendent tous les week-ends quand ils vont dans leur circonscription sur les marchés? C'est que si jamais ils votent cette loi injuste, entre guillemets, il est inutile d'espérer la moindre possibilité de réélection, etc. Donc je pense qu'au Parlement, ça va pas être si facile que ça. Au Sénat, on voit bien, oui, c'est clair. D'ailleurs, cette réforme, finalement, c'est le produit des cogitations du Sénat. Bon, bah le résultat, moi, c'est que je suis pas du tout confiant dans la capacité des Républicains à voter cette loi.
Jean-Philippe Cartier.
Non, ce qui est simple, c'est comment ça va se passer mardi, et la CFDT, c'est le bras agréable, on va dire, de la partie syndicale. C'est quand même ceux qui souvent font des concessions, écoutent et essayent de construire un peu l'avenir auprès de ceux qui nous gouvernent. Maintenant, c'est très clair, s'il y en a 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 qui ont décidé que ça devait continuer et que ça s'arrêterait pas, ça sera compliqué. Donc c'est qu'une histoire de mobilisation. Je pense que je rejoins mon voisin sur la partie. Ils ont pas pris la voie la plus simple, parce que là, c'est ce qui divise, c'est ce qui complique, c'est ce qu'il y avait... pas mal d'autres manières d'appréhender. Nous, on le voit en entreprise. Le sujet de l'âge, le sujet sur les femmes, il y a pas mal de sujets qui peu compris. Et je pense que la manière dont ça va se passer dans la rue va résumer tout. J'espère que ça sera le plus court possible et le moins douloureux possible pour nos entreprises.
Mais vous avez tous raison. C'est-à-dire qu'au fond, d'avoir choisi l'âge plutôt que, par exemple, l'accélération de la réforme Touraine, c'est parce que ça rapporte plus.
Bah oui, parce que, si je peux me permettre, parce que la vérité, on dit que c'est une réforme sociale, pas du tout, c'est une réforme d'argent.
Une réforme d'argent.
Bah, on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ouais. Il faut dire les choses. On n'ose pas le dire et personne n'ose le dire. Mais la vérité, c'est que c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, parce qu'on a énormément besoin d'argent. On y viendra après, je crois.
Mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. C'est qu'en fait, quand on regarde vraiment, regardez toutes les études d'impact faites notamment par l'Institut des politiques publiques, etc. Au fond, on est en train de dilapider toute l'énergie réformatrice de ce quinquennat pour une réforme qui va impacter soit de quelques mois, soit de quelques dizaines d'euros la vie des gens. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander... Parce que la réalité, c'est que l'âge réel de départ à la retraite, il dépend déjà du nombre de trimestres que vous devez cotiser. Quand vous regardez, encore une fois, on l'a dit, les cadres, etc., mais prenez même les régimes spéciaux, qui sont quand même les premiers à être dans la rue. Si vous regardez l'âge réel de départ aujourd'hui des cheminots, par exemple, il est déjà 2 ans plus élevé que l'âge théorique.
Parce qu'ils n'ont pas tous leurs trimestres.
En gros, ceux qui peuvent partir à 52 ans, les conducteurs, en fait, en réalité, ils partent entre 54 et 55. Et si vous prenez ceux qui ne sont pas roulants, qui peuvent partir à 57 ans, en réalité, ils partent à 59. Ouais. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça va changer, cette réforme, vu qu'ils étaient déjà impactés par la réforme Touraine?
Donc, on aurait plus gagné à ne rien faire. Alors.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même disproportion, si vous voulez, à consacrer autant d'énergie. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura plus de réforme après celle-là. Puisque, honnêtement, quand vous êtes un gouvernement élu et un président élu, vous commencez toujours par la réforme que vous considérez comme emblématique, la plus dure. Si celle-ci, admettons qu'elle se fasse, ça aurait été une réforme tout à fait secondaire, et il n'y aura plus d'autres réformes ensuite. Donc, si vous envisagez le scénario qui peut se produire après l'élection présidentielle, après ce mandat, qui sera élu, etc., vous êtes quand même obligé de vous projeter dans les scénarios du pire, en termes de réalisme économique, et vous vous dites, de toute façon, on aura perdu 10 ans à nouveau, et ce seront 10 ans extrêmement préjudiciables, parce que les 10 ans qui viennent sont les 10 années qui vont sans doute le plus bouleverser.
Là, vous allez plus loin, vous dites on gâche tout avec cette réforme des retraites.
Je dis encore une fois qu'il n'y aura plus d'énergie réformatrice pour faire des réformes qui auraient été
Pour réformer, il faut être plusieurs, et il faut qu'il y ait des gens qui soient, d'accord. Moi, je le vis en entreprise tous les jours pour accompagner un mouvement. Donc, on le redit à chaque fois, et tu as raison, à savoir, dès le début d'un quinquennat, il faudrait que quelqu'un se mette au travail 15 jours après et fasse passer quelque chose dans le dur. Ça a manqué à tous nos gouvernants depuis des années, on est complètement alignés. Aujourd'hui, ça fait quand même un tout petit peu bouger les mentalités, un tout petit peu bouger les lignes. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis aligné sur le fait qu'elle n'est pas assez ambitieuse. On est tous d'accord. Mais on verra ce qui se passe mardi. Si déjà, avec ce manque d'ambition, c'est encore un bordel sans nom, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes et autres, sur des tas de sujets qu'on peut comprendre parfois, je suis en train de dire que là, on va comprendre que l'énergie réformatrice, il faut être plusieurs pour négocier. Dans un pays où il est très compliqué de négocier, et je le vois tous les jours, tous les matins, c'est plus dur d'accoucher d'un éléphant ou d'une souris.
Jean-Philippe, vous qui avez vos entrées à Bercy, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous voyez ce qui se passe dans les entreprises. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites arrêtez vos conneries? Vous leur dites quoi?
Vous me surestimez. J'ai juste les entrées d'échanger, de dialoguer et d'avoir de l'écoute. Ce que je veux juste vous dire par rapport à ça, c'est que tout le monde est conscient. Faut juste pas les prendre pour des plus abrutis qu'ils ne sont. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ils sont absolument conscients de ce qui se passe. On va revenir, je crois, sur la dette publique. Il y a des vrais sujets sur la retraite. Tout le monde pense que ça pourrait être ambitieux, mais c'est des passages par étapes. Alors oui, encore une fois, faut pas croire. Pareil qu'avec les entreprises, on l'a déjà exprimé sur votre plateau, les entrepreneurs parlent beaucoup à Bercy. Bercy est très informé de ce qui se passe, on n'a pas des gens déconnectés. Moi, je ne sais pas comment c'était il y a 35 ans. Aujourd'hui, nous parlons avec des gens qui nous écoutent, que ce soit des ministres, soit des directeurs de cabinet, qui comprennent. Ils l'ont prouvé pendant le Covid. Donc, ils ont conscience. Le problème, c'est que c'est un pays compliqué à réformer, avec des gens compliqués à faire bouger. Je lisais un article, les gens sont prêts à gagner 5 à 10% de moins pour avoir une demi-journée ou une journée de plus de travail en moins par semaine. C'est un pays compliqué quand on comprend ça. Moi, je le vois tous les jours. Quand on comprend ça, on se dit que c'est pas évident d'être là-haut et de prendre des mesures. Pardon à toi, Charles.
Non, juste pour dire que la parenthèse enchantée du Covid en matière de simplicité, d'agilité réglementaire, administrative, etc., c'est malheureusement refermé partout. Elle s'est refermée à l'hôpital, elle s'est refermée dans les ministères, où on se retrouve à nouveau avec des tas de dispositifs multiples qui se contredisent les uns aux autres,
changer,
pour des effets de seuil, etc. Ça y est, on est revenu comme avant.
Alors vous le disiez, ce qui nous préoccupe tous, c'est ces 3 000 milliards d'euros de dette. Bruno Le Maire a confirmé qu'on avait passé le seuil, qu'on allait sans doute annoncer qu'on avait passé le seuil en décembre. Alors ça va être annoncé en mars. 3 000 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est ça qui
explique le niveau de la Grèce avant que ça s'envole, 113%
du PIB.
Le niveau par rapport au PIB, ouais. C'était beaucoup plus que le niveau.
Mais on s'en fiche ou pas? On vit avec.
Oui, le sujet, c'était Louis-Ferdinand Céline qui disait « on ne meurt pas de ses dettes, on ne meurt de plus pouvoir en faire ». Le sujet, c'est est-ce qu'on est de nouveau capable, est-ce qu'on inspire confiance à ceux qui nous prêtent de l'argent? C'est ça la vraie question. Et pour revenir sur le sujet d'avant, effectivement, les réformes qui sont faites aussi imparfaites et peut-être maladroites puissent-elles être, c'est aussi pour que tous ceux qui nous prêtent de l'argent, cet argent-là, on en a besoin, puisque je rappelle qu'on a effectivement plusieurs centaines de milliards tous les ans qui nous manquent pour combler le budget de l'État. Donc l'important, c'est effectivement qu'on soit capable de dire on est crédible dans notre volonté d'avoir des dettes qui soient soutenables, c'est-à-dire de pouvoir avoir une charge de la dette qui soit raisonnable et en tout cas qui soit cohérente avec les investissements qu'on fait.
Donc on fait la réforme des retraites pour être crédible ?
Je pense que ça fait, ça fait largement partie effectivement du package, bien sûr. Ça fait largement partie du package. On a besoin en France de produire plus, on le sait. On a un véritable problème. Le problème de fond, effectivement, qui n'est, je pense, pas suffisamment mis en avant, c'est que cette réforme-là, elle est faite aussi pour accroître le potentiel productif.
Mais elle n'est pas vendue comme ça.
Mais effectivement, elle n'est pas vendue comme ça. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur.
On doit produire plus que nous dépensons. C'est facile à comprendre. Et parler de la barre des déficits des 3%, elle a été en 2018, on était dedans, le gouvernement Macron, qu'on le veuille ou non, on tire un trait, on fait un bilan, on fait pas de politique, était passé sous la barre des 3%, création d'emplois quand même importante. Aujourd'hui, il faut qu'on reproduise plus que nous dépensons. Et ce qu'on oublie trop souvent, ce qu'on va encore dire, oui, ils font n'importe quoi, les dépenses, le quoi qu'il en coûte, si on est juste objectif de seconde, c'est quoi ? C'est, ça doit s'arrêter, mais toutes les aides que tout le monde a été quémandé, dans tous les corps de métier, je suis bien placé pour vous en parler. Vous disiez tout à l'heure, il y avait le monsieur du crédit sur les PGE, le médiateur du crédit, qui expliquait les petites entreprises. Vous savez pas le nombre d'entreprises que je connais qui ont pris 100 millions d'euros, 150, 200 millions d'euros dans les PGE. Il n'y a pas que des petites. Alors, en moyenne globale, oui. Mais il y a quand même des gros montants. Ben, tous ces gens-là sont venus pleurer à Bercy. Tous, parmi des très gros, ces gens-là, si on leur disait non, ben, ça se braquait partout. Donc, c'est quoi le quoi qu'il en coûte? C'est la vaccination? Gratuite pour tout le monde, c'est le chômage partiel, c'est les PGE, c'est tout un certain nombre de choses que si tu enlèves et que si tu tires sur la pelote, c'est, comme disait Bruno Le Maire, pardon, sur l'article hier dans le JDD, c'est soit on y va à la hache, soit on augmente les impôts. Personne veut tenir la hache. À partir de ce moment-là, il faut prendre des décisions. Et il faut les prendre dès maintenant. Et il faut produire plus.
Non, mais le véritable point, c'est que la pandémie, partout dans le monde, et en particulier en France, mais partout dans le monde, a cassé la notion de récession obligée. C'est-à-dire qu'en fait, on a découvert l'arbre à argent et quand on fait le calcul, quand on fait le calcul de l'argent dépensé pour chaque récession depuis 40 ans, on a des calculs qui sont exponentiels partout dans le monde. Je prends un exemple. En fait, dans les années 80-90, on avait à peu près 1% du PIB qui était dépensé à chaque récession. Pour la récession de 2003, on était à 3% du PIB. Pour la récession de 2008, on était à 12% du PIB. Pour la récession de 2020, on a dépensé collectivement dans les pays 35% du PIB.
Mais c'est pour ça que l'argument Wilfried de « il faut trouver de l'argent pour les finances publiques » ne passe pas sur la réforme des retraites.
Sauf qu'effectivement, on est arrivé à un stade où effectivement, il faut que ça s'arrête. Mais pour faire passer ça dans le public, et y compris vis-à-vis des acteurs économiques qui sont dans la vie quotidienne, c'est très difficile.
Il y a de la brutalité pour casser la croissance, ça fera mal à tout le monde.
Emmanuel, les Français, ils sont pas bêtes. Ils ont vu aussi que cette aide massive de l'État pour soutenir la croissance, ben, ça avait été assez utile finalement. On a évité la récession, on a évité le chômage. Et finalement, est-ce que le bilan coût-bénéfice montre pas qu'il faut que l'État, dans ces cas-là, investisse passivement? Même Jean-Philippe hoche de la tête pour dire oui. Donc,
non, mais le bilan coût-bénéfice, il est indiscutablement favorable. Ah ouais. Parce que si on avait laissé s'effondrer des pans entiers de l'économie, la situation serait bien pire. Mais c'est justement ça, c'est que en fait on a une situation exceptionnelle qui a appelé des résultats exceptionnels qui ont été efficaces et qui valide une erreur de politique économique qui dure depuis 40 ans. C'est ça le sujet.
Oui, d'abord.
C'est-à-dire que quand vous regardez en fait, parce que fondamentalement il n'y a pas de niveau de dette publique qui est jugé alarmant. Ça n'existe pas dans la théorie économique. Vous avez des pays qui ont des très gros niveaux de dette publique et qui vont plutôt très bien. Je pense au Japon, par exemple. Et vous avez des pays qui vont très mal et qui ont paradoxalement peu de dette publique.
L'Argentine.
Je pense à l'Argentine. Voilà. Donc, après, il y a une façon de réduire... Finalement, pour réduire sa dette publique, faut pas rêver. Il y a quatre façons. Il y a deux sorties par le haut et deux sorties par le bas. Les sorties par le haut, c'est faire plus de croissance, c'est optimiser la dépense publique. Et puis, la solution par le bas, c'est d'augmenter les impôts et c'est l'inflation. Donc, peut-être, il est probable, de toute façon, qu'il y aura tous ces leviers qui vont devoir s'actionner si on veut maîtriser cette dette. Mais la réalité, c'est que sur les dépenses publiques, moi, j'aime bien le discours de Bruno Le Maire hier, qui dit waouh, on va être attention, on va être intransigeant sur les dépenses publiques l'année prochaine. Mais vous allez les chercher où? Dans un État qui dysfonctionne complètement. C'est-à-dire qu'on voit bien, on l'avait vu avec Nicolas Sarkozy, s'il y avait des immeubles entiers de fonctionnaires qui font rien de la journée, mais ça se saurait. C'est-à-dire que les inefficacités, enfin encore une fois, on peut pas être le pays qui dépense le plus et le pays qui a une aussi piètre performance de son service public. Mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas ça à plat, et aujourd'hui la réalité réalité, c'est qu'il faut le dire. Parce que, effectivement, qu'ils sont conscients de ça, ils sont pas bêtes, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Bien parce sûr. Qu'ils pensent qu'on ne peut plus le faire. Ils pensent que, de toute façon, la mécanique est incontrôlable. Ouais. Et donc, ils renoncent. Ah. Et donc, ils se contentent d'aller chercher de l'argent sur des petites réformes comme la réforme des retraites. Il y aura quelques milliards.
Ce qui est les intérêts d'en prendre l'année. Donc, on est d'accord,
ouais,
c'est pas ça.
Il y aura quelques milliards qui vont aller être cherchés sur des économies. Mais comme avait fait Nicolas Sarkozy avec son histoire de. Parce que la logique du type, on va pas remplacer un fonctionnaire sur deux, c'est absurde. Si la réalité, c'est qu'il faudrait se mettre autour de la table, les besoins, c'est quoi? C'est où? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut plus intervenir? Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs?
Quel est le périmètre? On s'en pose pas. Ouais.
Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un grand débat. Ça demande des années.
Certains.
Sur le grand débat, on sait faire.
Ce qui est juste certain là-dessus, c'est que c'est pas politique, mais ce qui est certain, que ça soit aussi bien le président de la République que Bruno Le Maire, sur cet alignement absolu, on partage. C'est une politique à 10 ans. En 2 ans, trouver des coupes, ça va être très compliqué. Mais la volonté de réduire le déficit bien nettement sous les 3% en 2027 et de laisser un pays propre à ce niveau-là, malgré l'aide Covid, malgré l'aide énergétique, elle est réelle et c'est un sujet absolu. C'est pas que de la communication du JDD, c'est une vraie volonté.
Un pays propre, mais pas réformé. C'est-à-dire un pays propre grâce, comme le disait Emmanuel, à des
ben grâce à des mesures qui sont en train d'être réfléchies, ouais. qui sont pas
mais pas de remise en cause de la réforme de l'État, pas de Big Bang.
On ne peut pas le faire en 2 ans.
J'attends de voir la piste qui est évoquée, qui est quand même assez extraordinaire, c'est de dire oh là là,
il veut conclure.
On est en train on aide quand même les secteurs hydrocarbures, etc., alors qu'on veut décarboner.
Ouais.
Je crains le pire. Je ne sais pas ce qu'on va aller chercher
de ce côté.
On va essayer d'écouter
d'autres personnes. La thèse carbone. Ouais.
Voilà.
Wilfried.
Non, mais en fait.
C'est lui qui aura le mot de la fin.
Non, mais.
Très bien.
Il a gagné.
La question du périmètre, c'est la question fondamentale, mais c'est la question la plus dure à se poser, puisque, en fait, on a créé effectivement de telles rigidités qu'à un moment donné, on voit qu'à chaque fois qu'on attaque ces rigidités-là, tout le pays risque de se bloquer. Donc, oui, il faut le faire, mais la seule façon, malheureusement, de le faire, c'est de le faire peut-être sans le dire, de la façon la plus souple possible et la plus discrète possible, parce que dès que vous affichez des choses, tout le monde est dans la rue, ça se bloque.
Ça marche, ça n'existe pas, ça.
Il veut le mot de la fin.
On n'aura pas eu le temps de parler de la très grosse semaine sur les GAFA, mais ça commence, on le fera.
Ça s'est fait que quand le pays était au bord de la faillite, mais la réforme tranquille, comme ça, machin et tout, c'est très rare.